qui est troublé, qui est harcelé par un mauvais esprit. Et ces hommes disent ça, on a un homme qui peut jouer de la musique et il est animé d'un bel esprit. Et puis, on a vu que David vient. Et qu'est-ce qui se passe quand David joue? Ben, effectivement, le mauvais esprit s'en va. Pourquoi? Parce que c'est un bon musicien? Non. Parce qu'il est animé de l'esprit. L'esprit de Dieu est plus fort que n'importe quel autre esprit. Puis en fait, des fois, je parle à des gens qui parlent des anges ou du monde spirituel. Puis j'ai dit, vous croyez dans un monde spirituel, il y a des esprits. Mais savez-vous lequel des esprits qui est le plus fort? C'est l'esprit de Jésus-Christ qui est le plus fort de tous les esprits. Il n'y a aucun autre esprit qui peut tenir devant lui. Donc, on a vu que David jouait par l'esprit et donc qui jouait pour qui, dans le fond? Pour Saül? Non, pour le Seigneur, comme il faisait dans les pâturages. Il est resté centré sur Dieu, il est resté avec un cœur qui bat pour Dieu. Il n'a pas commencé à mépriser Saül, à vouloir le remplacer. Il a continué à servir humblement en attendant. Puis souvent, on vit trop dans le futur, hein? C'est ça qu'on avait vu. On est trop focusé sur l'avenir qu'on oublie de servir Dieu maintenant, de servir Dieu humblement maintenant. Ça, on a vu ça. On a vu aussi que l'anxiété dans la vie de Saül l'avait poussé à agir d'une façon insensée avant que David arrive sur scène. Samuel lui avait donné rendez-vous, puis il était supposé d'attendre 7 jours avant que Samuel vienne pour offrir des sacrifices, puis que là, à partir de là, il aurait su c'était quoi la volonté de Dieu pour sa vie. Mais il était anxieux parce que les Philistins l'entouraient, puis il a pris les choses en main. Des fois, l'anxiété, hein, c'est quoi l'anxiété? On a vu que c'est un sentiment d'incapacité, de peur de ne pas être capable de faire face à une menace, d'inquiétude. Mais c'est comme une peur profonde. Il y a une menace pour ma sécurité, pour ma santé, pour ma famille, pour mon état financier, pour peu importe. Ma réputation, il y a une menace. Puis, je ne pense pas être capable, dans mon fin fond, là, être capable de faire face à ça. Et puis, des fois, ça nous pousse à faire des choses insensées. C'est quoi insensé? C'est d'agir sans tenir compte de Dieu, dans le fond. Dieu est loin, loin, loin dans le portrait. On a vu ça. On a vu aussi, dans un autre contexte, la semaine passée, où ce que Saül encore est devant une impasse, parce qu'il y a un défi qui est lancé par Goliath. S'il y a un homme qui veut venir se battre contre moi, s'il me vainc, on va être vos esclaves. Si je le vainc, vous allez être nos esclaves. Hein? Puis on a vu que les hommes étaient paralysés par l'anxiété. L'anxiété peut te paralyser. Et on a vu que c'était à cause de l'orgueil. Il était piégé par l'orgueil. Et là, David arrive et il vit une victoire écrasante sur le géant. Mais ce n'est pas parce qu'il est meilleur, ce n'est pas parce qu'il est plus fort, au contraire, c'est parce qu'il sait en qui il a confiance et qu'il s'appuie sur cette personne-là, ce Dieu-là et ce que Dieu a dit. Et ils disent, toi, tu as insulté. Pas des hommes, t'as insulté l'armée du Dieu vivant. Il agissait par la foi. Donc, c'est ce qu'on a vu la semaine passée. Et puis, ici, voilà une image de ce qui se passe lorsqu'une menace vient attaquer mon cœur. Et si mon cœur est centré sur moi, au lieu d'être centré sur Dieu, qu'est-ce qui va arriver? Je m'appuie sur mes forces, je m'appuie sur mes désirs. Et qu'est-ce que ça fait? C'est qu'à un moment donné, ça me dépasse et là, l'anxiété arrive et Dieu est loin, loin, loin dans le portrait. Même, il paraît pas dans le portrait. Donc, ce qu'on va voir ce matin, c'est qu'un cœur qui bat pour Dieu demeure humble malgré le succès, tandis qu'un cœur égocentrique est piégé par l'orgueil et la colère. On va lire dans 1 Samuel, chapitre 18. Donc, c'est tout de suite après que David ait vaincu Goliath, le géant. Il parle avec Saül et son fils Jonathan, qui est aussi un guerrier. 1 Samuel, chapitre 18. Quand David eut terminé de parler avec Saül, Jonathan s'était profondément attaché à David et s'était mis à l'aimer comme lui-même. Saül ne le laissait pas retourner dans la maison de son père ce jour-là, il le prit chez lui. Jonathan conclut un pacte d'amitié avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même. Il enleva son manteau et le donna à David et lui offrit aussi son équipement et jusqu'à son épée, son arc et son ceinturon. Chaque fois que Saül l'envoyait en expédition militaire, David accomplissait sa mission avec succès, de sorte que le roi lui confia le commandement de ses troupes de choc, ses troupes d'élite. Il était estimé de tout le peuple ainsi que des ministres de Saül. Donc, le portrait, c'est que David vint Goliath, mais maintenant, il reste sur le champ de bataille, il reste en fonction, puis il y a d'autres batailles, là. Et chaque fois que David s'en va, il remporte des succès, OK? Lorsqu'ils étaient revenus de la guerre, donc il y a une guerre, mais il y a eu plusieurs batailles, il y a eu plusieurs interactions entre les deux armées. Après que David eut tué le Philistin, les femmes étaient sorties de toutes les villes d'Israël à l'encontre du roi Saül en chantant, en dansant, en poussant des cris de joie au son des tambourins de la cymbale. Elles chantaient en chœur alterné tout en dansant. Saül a vaincu ses milliers et David ses dizaines de milliers. Saül le prit très mal et se mit dans une grande colère. Elles en attribuent 10 000 à David, dit-il, et à moi seulement 1 000. Il ne lui manque plus que la royauté. À partir de ce moment-là, Saül regardait David d'un mauvais œil. Dès le lendemain, un mauvais esprit envoyé par Dieu s'empara de Saül de sorte qu'il entra dans un état d'exaltation au milieu de sa maison. Comme les autres jours, David jouait de son instrument. Saül avait sa lance en main. Soudain, il la lança en se disant, « Je vais le clouer contre la paroi. » Mais par deux fois, David esquiva le coup. À partir de ce jour-là, c'est drôle, hein? Saül craignit David. C'est pas David. Moi, je me semble que me faire lancer deux lances, c'est moi qui aurais craint l'autre. Saül craignit David, car l'Éternel était avec David alors qu'il s'était retiré de lui. C'est pourquoi Saül l'écarta d'auprès de lui, le nomma commandement d'un millier d'hommes. Ainsi, David entreprenait des expéditions militaires à la tête de ses hommes. Il réussissait dans tout ce qu'il entreprenait, car l'Éternel était avec lui. Lorsque Saül constata ses grands succès, sa peur ne fit qu'augmenter. Par contre, tout Israël et tout Juda aimaient David, car il marchait à la tête de leurs soldats dans les expéditions militaires. Un jour, Saül dit à David, « Je suis prêt à te donner ma fille aînée Merab en mariage. » C'était une promesse qu'il avait faite à celui qui tuerait le géant. Vous vous rappelez? Mais là, il mène une condition encore, à condition que tu me serves comme un vaillant guerrier et que tu livres les combats de l'Éternel. Il se disait, il vaut mieux que ce ne soit pas moi-même qui attente à sa vie, mais plutôt les Philistins. David lui répondit, « Qui suis-je et que vaut ma vie? De quelle importance est ma famille de mon père en Israël pour que je devienne le gendre du roi? » Mais quand le moment vint où Merab, la fille de Saül, devait être donnée à David, Saül le donna à Adriel de Mahola. Or, Michal, l'autre fille de Saül, aimait David. Quand Saül l'apprit, il en fut ravi, car il se dit, « Je vais la lui donner en mariage, elle sera un bon piège pour lui, ainsi il tombera par la main des Philistins. » Il dit donc à David, « Aujourd'hui, tu as une seconde occasion de devenir mon gendre. » Puis il ordonna à ses hommes de confiance de parler discrètement à David, de lui dire, « Tu vois que le roi t'a pris en affection et tous ces gens t'aiment. Accepte donc maintenant de devenir son gendre. » Les ministres de Saül allèrent répéter ces paroles à David, mais celui-ci leur répondit, « Croyez-vous que ce soit une petite affaire de devenir le gendre du roi? Je ne suis qu'un homme pauvre et insignifiant. » Les ministres du roi lui rapportèrent à Saül la réponse de David. Eh bien, reprit Saül, voilà ce que vous lui direz. Le roi ne demande pas de dot d'argent pour sa fille. Tout ce qu'il désire, c'est que tu lui apportes 100 prépuces de Philistins pour le venger de ses ennemis. En fait, Saül avait comme but de faire périr David par la main des Philistins. Les hauts fonctionnaires de Saül rapportèrent ces paroles à David. La proposition de devenir le gendre du roi à ces conditions lui parut acceptable. Avant même l'expiration du délai fixé par le roi, David se mit en campagne avec ses hommes. Il tua 200 Philistins et rapporta la totalité de leurs prépuces au roi pour devenir son gendre. Saül donna donc en mariage à David sa fille Michal. Saül vit ainsi clairement que l'Éternel était avec David et que Michal, sa propre fille, aimait David. Sa crainte à l'égard de David redoubla et dès lors, sa haine envers lui devint définitive. Mais à chaque incursion des princes des Philistins, David remportait plus de succès que tous les autres chefs militaires de Saül, de sorte que son nom devint très célèbre. Prions. Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, quel privilège que nous avons, Seigneur, ce matin encore, d'avoir ta parole entre nos mains. On a besoin, Seigneur Dieu, que tu fasses briller sur nous ta face. Que tu nous accordes ta grâce, la grâce de comprendre ta parole, la grâce de comprendre ton cœur, la grâce d'être en relation avec toi par notre Seigneur Jésus-Christ. Donne-nous cet esprit de révélation, de sagesse, pour bien saisir et pour te connaître intimement, Père. Nous prions. Au bon nom de Jésus. Amen. Donc, en résumé, David vient de tuer le géant. C'est un héros national comme on n'a jamais vu depuis très longtemps. Imaginez-vous. Jonathan s'attache à lui par une alliance d'amitié. Il lui donne tout. C'est comme s'il lui dit, « Voilà, c'est toi le vrai roi. » C'est comme s'il rendait les armes, hein. Il donne son manteau, sa ceinture, son épée, tout son équipement. C'est incroyable. Il rentre en alliance d'amitié. Je n'aurai pas le temps d'examiner cela avec vous aujourd'hui. On y reviendra. Puis, ce qu'on peut comprendre, comme j'ai dit tantôt, c'est que la guerre s'est poursuivie. David a eu beaucoup de succès contre l'armée philistine dans les batailles qui ont suivi. Et Israël, tranquillement, se fait libérer de l'oppression des Philistins, qui les dominait, qui les contrôlait, qui les rendait esclaves. Et là, il rentre au pays, puis les femmes célèbrent en chantant. Il y a deux chœurs, là. Saül a tué ses 1000, puis les autres femmes répondent, et David, ses 10 000. C'est la fête. Tout le monde est heureux, sauf un. Il s'appelle Saül. Lui est en colère. Donc, la réaction d'un cœur égocentrique, la première chose qu'on voit, c'est quoi cette émotion-là, la colère? On a déjà vu dans les enseignements que Dieu se met, lui, en colère. Et sa colère est suscitée lorsqu'il est face à une injustice, une fausseté, quelque chose qui est contraire à sa volonté. Bien, ça suscite la colère de Dieu. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Dieu nous a créés avec des émotions. Okay? Et la colère en fait partie. Donc, la colère, à la base, c'est une réponse à une injustice réelle ou perçue. Okay? Puis ça, c'est important, là. Ça, c'est très important. La colère est une réponse à une injustice réelle ou perçue. Tout ce qui va à l'encontre de ce que tu considères comme étant vrai, juste ou bon, ben ça risque de susciter la colère dans ton cœur. Pourquoi? Parce que tu es fait à l'image de Dieu. OK? Le problème... Un des problèmes, c'est que nos émotions sont tributaires de nos perceptions qui, elles, peuvent être faussées. Donc, toi, tu considères que c'est une injustice, mais ta perception est faussée. Donc, Saül, ici, il est en colère. On va y revenir, OK? Nos émotions sont tributaires de nos perceptions qui peuvent être faussées, alors que Dieu, lui, sa perception est toujours juste, réelle. C'est pour ça que Dieu, sa colère, elle est juste. Puis nous, quand on se met en colère, attention. Attention. Parce que ta perception peut être faussée. Premier problème. Nos perceptions sont influencées par l'orientation de notre personne, par nos désirs, par nos idoles, les choses qu'on protège comme tellement importantes, qui nous donnent notre identité, notre valeur, etc., sont influencées aussi par nos blessures, par nos pensées et par la philosophie du monde, entre autres. Maintenant, revenons dans 1 Samuel 18. Saül est en colère. Pourquoi l'est-il en colère? Il dit, ils en attribuent 10 000 à David et juste 1 000 à moi. Alors, il perçoit là, quoi? Une injustice. OK, pourquoi? Pourquoi, Saül, c'est une injustice? Pourquoi? Pour toi, c'est une injustice. Parce que c'est moi le roi. On doit m'honorer, moi, par-dessus tout. Je suis le roi. Hein? Ça se peut pas, là, qu'un autre ait plus de gloire que moi. C'est moi le roi. On voit ici que Saül base son identité et sa valeur sur quoi? Sur Dieu? Non. Sur sa personne à lui. Il base son identité, sa valeur sur sa position, sur ce que les gens pensent et disent de lui. Et donc, puisqu'il ne reçoit pas ce qu'il s'attendait de recevoir, il est en colère. Est-ce que ça se comprend, sa colère? Est-ce qu'on peut comprendre sa colère? Oui, on peut comprendre sa colère. Est-ce que ça veut dire que sa colère est bonne? Non, pas du tout. Voyez-vous, c'est parce que souvent on est obnubilé, si on veut, on se trompe nous-mêmes en disant, ben j'ai le droit d'être en colère. J'ai le droit d'être en colère parce que telle affaire est arrivée. Donc, je suis en colère. C'est comprenable. Tu comprends pas que je suis en colère? Oui, c'est comprenable, mais c'est faussé. C'est faussé. Donc, c'est pas parce que ça se comprend que ça veut dire que c'est justifié. C'est légitime. C'est pas nécessairement légitime. C'est une colère basée sur une fausse perception des choses à cause que son cœur est tourné vers lui. Un cœur égocentrique. Donc, ici, une autre image, un peu comme avec l'anxiété, mais j'ai changé les mots. On a une injustice réelle ou perçue. OK? C'est important. Ça vient frapper mon cœur qui est tourné vers moi, qui, soit que je n'ai jamais connu Dieu, ou que j'ai connu Jésus-Christ, j'ai connu Dieu, mais tout en cheminant, on sait ce qui passe, hein? On peut facilement redevenir égocentrique. Et là, bang, injustice, ce que je perçois comme une injustice. Qu'est-ce qui se passe? Ça va produire quoi? La colère. Et où est Dieu là-dedans? Ah, il est très loin encore dans le portrait, hein? Très, très loin. Ensuite, un autre problème, c'est que notre colère, qui n'est peut-être même pas justifiée, elle est mal contrôlée, elle est mal dirigée. Au lieu d'être dirigée vers la situation, elle est dirigée contre la personne. Et au lieu d'être contrôlée, elle est incontrôlée souvent. Donc, ça devient très dommageable, très destructeur. Saül est piégé par ses émotions. Non seulement il est en colère, mais maintenant il a peur en plus. Il a peur que David va le supplanter. Il dit, il ne lui manque plus rien que la royauté. Et pour ne pas arranger les choses, David, il connaît encore succès, puis après succès, puis après succès. Fait qu'il y a une jalousie qui vient l'habiter et une peur jusqu'à à le pousser à l'action. Qu'est-ce que Saül va opter comme plan d'action? Premièrement, il essaie de régler le problème en éloignant David de sa personne. Il l'envoie à l'armée. Ça aide rien parce que David, il a succès par-dessus succès. Fait que ça ne marche pas. Après ça, il l'expose intentionnellement à des situations dangereuses dans le but qu'il soit tué et sournoisement, que personne puisse soupçonner que c'est ça qu'il voulait, Saül. Et troisièmement, il attente directement à sa vie. Tiens, avec la lance, deux fois. On voit comment un cœur égocentrique qui réagit à une injustice, en colère, comment ça peut aller loin. Très, très loin. Maintenant, on va regarder la réaction d'un cœur qui bat pour Dieu. Tournons-nous du côté de David. Imaginez, David, déjà on a vu qu'il est roi, il sait, là. Il sait qu'il va remplacer Saül. Il sait que son avenir est prometteur, hein? Rempli de gloire, de richesse, de pouvoir, de reconnaissance. Tout ça, il sait, là, déjà, là, on le sait, on l'a vu, hein? Pourtant, comme Robert a dit ce matin, il est retourné garder les brebis. Il est allé servir Saül humblement, etc. Maintenant, en plus de tout ça, là, qu'est-ce qui se passe? Il remporte une victoire incroyable sur un géant puis sur une armée adverse. Là où ce que Saül et ses hommes ont complètement failli, David réussit. Il y a un succès foudroyant. Il est célébré. David a tué ses 10 000, Saül ses 1 000. Il est célébré partout dans sa renommée. Ça grandit, c'est rendu un rockstar. Un rockstar. Et combiner les meilleurs joueurs au monde de foot, là, pour nos amis soccer, hein? Plus grand star au monde avec le plus grand star de musique, parce que c'est un musicien aussi, mais David. Combiner les deux, c'est un peu ce que David est là. C'est incroyable, là. C'est incroyable. Mais si son cœur était égocentrique, qu'est-ce que cela pourrait produire? Bien, évidemment, hein? L'orgueil. L'orgueil. J'ai réussi où ce que Saül il a failli, garde. C'est moi qui ai oint roi, lui et Dieu l'a tassé. J'ai réussi où ce que ces hommes n'ont même pas réussi. Orgueil, mépris envers Saül, le désir de précipiter les choses encore, de chercher à se faire proclamer roi. Toutes ces choses brillent par leur absence chez David, pas vrai? Pourquoi? Il y a un cœur qui bat pour Dieu. Il y a un cœur christocentrique, centré sur Dieu et sur sa gloire. Oui, il doit être content, il doit être dans la joie. J'imagine que David fête aussi, mais quelqu'un m'a dit hier soir, quand les généraux romains revenaient d'une victoire, là, il y avait un esclave que l'empereur payait pour être à côté de lui dans le cortège. Tu sais, quand les généraux romains revenaient d'une grande victoire, ils se promenaient dans les rues de Rome, là, avec un grand cortège. On les honorait. Mais il y avait apparemment un esclave qui était payé par l'empereur à côté de lui pour lui souffler dans l'oreille tout le temps, Memento homo, Memento homo. Rappelle-toi que tu es un homme. Rappelle-toi que tu es un homme. Alors, David, il célèbre, là, il est dans la fête, tout le pays est dans la fête. Mais David se rappelle qu'il est un homme. Hein? David se rappelle qu'il est un homme. Et là, comment est-ce qu'on sait encore que David, son cœur est humble? Bien, ça se voit dans ses paroles et ses actions. Lorsqu'on lui propose deux fois de devenir gendre du roi. Bon, la première fois, là, finalement, c'était son dû. Parce qu'on a vu, quand Saül était face à Goliath, il avait promis de combler le gars qu'il allait battre de richesse et de sa fille en mariage. Donc, être en lien avec le roi Saül. Et là, David abat le géant, mais je sais pas, ça se passe pas. Hein? Puis là, on lui dit, ben, OK, le jour est arrivé, tu vas être genre du roi, mais David répond quoi? Qui suis-je? Ben, attends un peu, David, là. Il me semble que tu es quelqu'un, là. Tu es loin de l'Éternel, puis tu as remporté une victoire incroyable et des victoires incroyables. Non, David dit, qui suis-je? C'est au verset 17 et 18, voilà. Qui suis-je et que vaut ma vie et de quelle importance est ma famille de mon père en Israël pour que je devienne genre du roi? Et au verset 23, là, finalement, Saül, il décide, non, je le donne à quelqu'un d'autre. Donne à quelqu'un d'autre. Change de décision, change d'avis. Finalement, il décide de lui offrir sa deuxième fille. Et encore, David dit au verset 23, « Croyez-vous que ce soit une petite affaire de devenir le genre du roi? Je suis qu'un homme pauvre et insignifiant. » Encore, par ses paroles, on voit son humilité. Il base son identité et sa valeur non sur sa position, non sur ce que les gens disent et pensent de lui, mais ce que Dieu pense et dit de lui. David aurait pu se mettre en colère parce qu'il n'avait pas eu la fille qui lui avait été promise. C'est une réelle injustice. Et David ne se met même pas en colère. Il est centré sur Dieu. On va regarder au bienfait de ce que ça fait une identité fondée sur Dieu. Ça, on a vu ça dans l'Église, la famille de Dieu. Hein? Je ne sais pas si vous vous rappelez. La perspective biblique de qui nous sommes part avec qui est Dieu, à gauche. Et qui est Dieu détermine ce que Dieu fait. Par exemple, il a envoyé Jésus-Christ mourir à la croix pour tes péchés. Et ce qu'il a fait détermine qui tu es. Si tu te repens et tu crois au Seigneur Jésus, tu deviens son enfant. Et ce que tu es détermine ce que tu fais. Ça, c'est le pattern biblique. C'est très important, ça. Très, très important de comprendre ça, de saisir ça. Ce que Dieu fait est tributaire de ce qu'il est. Et ce que nous faisons est tributaire de ce que nous sommes, qui est tributaire de ce que Dieu a fait et ce qu'il est. Le problème, hein, c'est qu'on connaît l'histoire de l'être humain. Il y a une rupture au milieu. Lorsque les premiers humains d'Adam et Ève se sont révoltés contre Dieu, ils ont pris leur propre chemin, ils n'ont pas obéi à ce que Dieu a dit. Qu'est-ce qui est arrivé? Rupture avec Dieu. Et là, l'homme, étant donné qu'il est coupé d'avec Dieu, qui il est et ce qu'il fait, ben là, il y a un problème. Parce que son identité, il est qui, là? Et c'est une question qui nous hante encore aujourd'hui. Qui suis-je? Qui suis-je? Hein? On se cherche. Qui suis-je? Bien, qui suis-je? Bien, là, on n'a pas le choix de se tourner vers ce qu'on fait, ce qu'on aime, ce qui nous passionne, ce qui nous caractérise. Et là, les flèches sont inversées. Ah ben moi, qui es-tu? Ah ben moi, je travaille comme commis comptable. Ah, OK. C'est ce que, hein, c'est la première question qu'on pose à question en Amérique du Nord, quand on a fini de parler de la météo et tout ça. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Pourquoi? Parce que ça détermine tout de suite dans notre tête qui tu es. Après ça, on va dire, ben qu'est-ce que tu aimes faire? Hein? Ah, ben moi, j'aime faire de la motoneige. Ah, OK. Hey, c'est un motoneigiste comme moi, lui. Là, on s'identifie, on se crée une identité de groupe. Une appartenance à un groupe, puis on tire notre identité. Quelle est ton identité? Comment, c'est quoi ton orientation? Sexuel? Ah ben moi j'aime les femmes. Ah ben moi j'aime les hommes. C'est ça mon identité. Quel est ton signe? Hein? Quel est ton signe? C'est quoi ton signe? T'es-tu scorpion ou je sais pas trop là? Hein? Ça, c'est basé sur quelles étoiles étaient, quelles constellations étaient dans le ciel le jour où tu es né. Et là, on va prendre ça pour se créer une identité, pour se forger une identité. C'est basé sur quoi, ça? C'est basé sur absolument rien. C'est pas scientifique, c'est pas biblique. Pourquoi les gens font ça? Parce qu'on est coupé de la vraie source de notre identité. Comprenez-vous? C'est là le problème. Il faut être reconnecté avec la vraie source pour découvrir finalement qui tu es et être sécure. Et ce qui arrive, c'est que ça ici, là, c'est problématique parce que c'est très insécure. Si mon identité, c'est que je suis ophtalmologiste, puis j'opère les yeux, si je fais plus ça, je suis qui? Je suis qui, là? Ouais. Puis si je suis pas capable d'être pasteur, je suis qui? Hein? Je suis qui, là? C'est ça, c'est fragile. C'est fragile. C'est instable. Et c'est problématique parce que ça influence nos relations. Alors on a vu que, voilà, la source de mon identité, ma valeur en tant qu'individu, ma sécurité, la définition de qu'est-ce que je considère qui est bien et mal, est toute basée sur mes désirs, mes passions, mes actions. Tout ce que tu considères comme essentiel pour réussir ta vie, ta prospérité, ton épanouissement, tout ça. Mais c'est problématique parce que ça crée des conflits, en plus de pas vraiment te satisfaire. Hein, la Bible dit que si tu n'as pas trouvé ta source en Dieu, c'est comme si tu t'abreuvais, tu essayais de t'abreuver à des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Il dit, moi je suis la source, dit l'Éternel, des eaux vives. La source des eaux vives, là, c'est intarissable. Et ça soulage vraiment ta soif pour savoir t'es qui. Mais ici, c'est instable et en plus, ça crée des problèmes dans nos relations parce qu'on a des attentes envers les gens pour combler. Je veux que tu me donnes ce que je cherche. Je veux me définir comme ça. Donc, si je me définis en fonction de pasteur, mais si tu n'écoutes pas ce que je dis, là, oh, ça peut créer des conflits. Voyez comment c'est subtil. C'est subtil, là. Mon identité, ce n'est pas que je suis pasteur. Mon identité, c'est que je suis enfant de Dieu. Et je suis là pour le Seigneur, pour vous aider, pour vous accompagner. Donc, ce n'est pas un enjeu, ça l'a déjà été. Ça l'a déjà été. Et si tu n'écoutes pas, je me mets en colère. Pourquoi? Parce que tu m'empêches d'être qui je veux être. Je veux être un pasteur, je veux être un bon pasteur. Mais si tu n'écoutes pas, ça me met en colère. Voyez-vous? Même dans l'Église. Même dans l'Église, ça nous suit tout ça. Et tant que je serai dans la chair, je vais être fragile à ça. Je peux tomber dans ça, encore. Et toi aussi. On a vu que dans la famille de Dieu, les relations, la base des relations saines, c'est une identité qui découle de haut en bas, de gauche à droite, de qui est Dieu, de ce qu'il a fait de moi. Lorsque tu es coupé de cette identité, ben là, ça cause des problèmes. Tu es ce que les autres pensent ou disent de toi, ce qu'ils reflètent de toi. Tu es ce que tu fais, ce que tu aimes, ce que tu détestes, ce qui te passionne. Et alors, comme Saül, ça produit des relations problématiques. Puisque si la personne avec qui tu es en relation ne te donne pas ce que tu recherches, qu'elle soit une relation amoureuse ou une relation d'affaires ou de famille ou d'amitié, tu recherches l'amour, l'honneur, la valorisation, la collaboration, l'argent, le respect, bien, si tu n'as pas ces choses, ça va provoquer une ou des réactions de ta part qui peuvent provoquer des réactions de l'autre part et la relation devient tendue. Pas vrai? La relation devient tendue. La communication diminue. L'on se distance l'un de l'autre. Et cela produit une perte de confiance, voire même une méfiance dans la relation. Et puis la rupture n'est pas loin. Tout ça parce que tu as basé ton identité sur quelque chose autre que sur Dieu. Dans une relation de couple, c'est ça qui se passe. L'autre ne me donne pas ce que je veux. Alors, il y a des réactions. L'autre réagit à mes réactions. Je réagis aux réactions de l'autre. On se distance. La communication est affaiblie, sinon inexistante. Ça mène à une perte de confiance et à une méfiance, et la rupture s'ensuit. Lorsque tu es réconcilié avec Dieu comme Père à travers la croix du Christ, ça change tout. Donc, les bienfaits d'une identité fondée sur Dieu, c'est que ça produit non seulement une identité sécure, mais des relations saines. Ton identité, tu la reçois de lui, enfant bien-aimé de Dieu. Hein? On l'a vu dans Éphésiens 5:1. Puisque vous êtes enfant bien-aimé de Dieu, enfant bien-aimé de Dieu, que toute votre vie soit dirigée par l'amour. On a vu ça dans la série sur la famille. Ta valorisation, tu le reçois de lui, puisque tu es son enfant bien-aimé, tu es précieux. Ta sécurité, tu le reçois de lui. Il te garde comme la prunelle de ses yeux, puisque tu es son enfant. Ta récompense, c'est lui. Une relation d'intimité avec l'être le plus puissant, le plus intelligent, le plus créatif, le plus beau, le plus riche de l'univers. Tout ça, parce que tu es enfant bien-aimé de Dieu. Donc, les bienfaits de l'identité basée sur Dieu sont l'humilité, la liberté, l'amour, le soutien. Et les dégâts de l'identité basée sur la performance sont jalousie, haine, crainte, anxiété, mensonge, manipulation. Est-ce qu'il y a une ou des situations dans ta vie qui te poussent à la colère actuellement? D'où vient cette colère? Quelle injustice? Quand tu vis la colère, pose-toi la question. OK, je suis en colère. Pourquoi? Parce que on va en parler des émotions dans les semaines à venir, parce que quand on parle de David, un homme selon le cœur de Dieu, un cœur qui bat pour Dieu, là, on n'a pas le choix de regarder dans les psaumes. Puis dans les psaumes, on voit David qui dévoile et qui expose son cœur, et il y a toutes sortes d'émotions. On va regarder c'est quoi ça. C'est quoi la perspective biblique sur les émotions? Quand j'étais petit, je me rappelle, des fois j'étais bouleversé ou je ne sais pas trop, en colère, puis là je me posais des questions. Puis là je me suis posé la question, c'est-tu bon de poser des questions? C'est vrai. J'étais pas sûr, là. C'est peut-être pas une bonne chose de se poser des questions quand je vais pas bien. Ou c'est peut-être bien de se poser des questions. Ben oui, c'est bien de poser des questions. Tout ce que tu vis, là, dans ton cœur, pose des questions et pose des questions à Dieu. Alors là, tu es en colère. Quelle injustice que tu perçois. Et est-ce que cette injustice, elle est réelle ou elle est perçue? Ça, là, des fois, on n'est pas capable de le démêler nous autres-mêmes. On a besoin d'aide. On a besoin d'en parler à un frère, à une sœur. Dire, ben là, regarde, je vis ça. Puis moi, je vis ça comme une injustice parce que moi, je m'attendais à telle affaire. Au moins, la personne, là, elle ne me respecte pas. Et ça me met en colère. OK, mais est-ce que la personne, elle a fait exprès pour ne pas te respecter? Est-ce que tu es sûr que sa façon d'agir, c'est vraiment un manque de respect? Tu sais, Ça prend de l'aide des fois pour démêler tout ça. On peut en parler directement avec notre berger. Est-ce que la situation que tu vis, tu en parles avec Jésus? Est-ce que tu en parles avec les autres? Est-ce que tu es ouvert à entendre ce que les autres te disent? Au palais. Au palais. Parce que quand on est en colère ou on perçoit une injustice, c'est fort, là. C'est fort. Et des fois, on ne veut pas entendre. Pas vrai? On ne veut pas entendre. On veut rester fâché. J'ai le droit d'être fâché. Comme j'ai dit tantôt, ça se comprend, donc ça veut dire que j'ai raison. Non, ce n'est pas parce qu'on comprend que ça veut dire que c'est légitime. Et qu'est-ce que cette colère révèle sur ton cœur, tes désirs, tes attentes, réellement? Ça, c'est difficile aussi, là, d'aller là, là. Je m'attendais à quoi dans le fond, là? Ça se peut-tu que mes attentes étaient mal placées? Ça se peut-tu que mes attentes étaient trop élevées? Ça, c'est dur aussi, là. Pour qui bat ton cœur actuellement? Pour Dieu? Pour toi-même? Une autre question, est-ce que tu es en mesure de rester humble malgré le succès? Donc, c'est toutes des questions qu'on a à se poser devant l'enseignement de la parole ce matin. Puis, oui, Maurice? Oh, ça c'est une grosse question. Alors, je n'entrerai pas dans ce sujet-là, mais je dirais que ça peut susciter des réactions dans mon cœur, la situation, et comme toutes sortes de situations. Et ça peut provoquer de l'anxiété, ça peut provoquer la colère. Ça peut provoquer toutes sortes de choses. Et ce qui est important, c'est de regarder à qu'est-ce que ça me fait vivre et d'amener ce que je vis au Seigneur. Seigneur, pourquoi je vis ça? Est-ce que tu peux me révéler qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Et après, comment veux-tu prendre soin de mon cœur, Seigneur? OK? C'est comme ça qu'on voit David dans les psaumes. Il répand son cœur devant le Seigneur. Et je vais revenir sur toute l'histoire des émotions. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est quoi la perspective biblique sur les émotions? Je ne sais pas si ça t'aide, là. OK, parfait. Oui? Ouais. Ouais, c'est ça. Je vais le répéter, OK? C'est de focusser sur Christ au lieu de regarder la circonstance. Ça, c'est vrai. Mais est-ce que la circonstance me fait vivre? Est-ce que je peux en parler à Christ, mon bon berger? Ouais. Ouais. Alors oui, il y a toutes sortes de possibilités. Hein? Le fait que Dieu soit souverain, le fait que Dieu soit toujours présent. Mais ça, c'est des choses qu'on faut discuter avec le Seigneur pour qu'il puisse nous le dire à nous, à notre cœur, à nous. Fait que ce matin, on termine là, frères et sœurs. À 11h15, Robert, tu veux venir en avant? Oui. Parfait.